Bonjour mes frères et sœurs. Voilà, on est de passage. On est de passage au milieu de vous et je vais commencer en vous posant une question. Est-ce que vous vous rappelez le premier don spirituel? À part celui qu'il a donné, est-ce que vous vous rappelez le premier verset qui a été donné dans le premier don spirituel? Levez la main ceux qui s'en souviennent. Est-ce que vous vous souvenez quel était le message du premier don spirituel? Levez la main ceux qui s'en souviennent, honnêtement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 personnes. Vous n'arrivez pas à vous souvenir? Le premier don spirituel. Non. Dieu parle. C'était le verset de Job 33. Dieu parle. Alors, je vous pose une autre question. Écoutez bien. Parce que je ne suis pas du tout sûr que l'on veuille que Dieu nous parle. Est-ce que vous voulez que Dieu vous parle? Ou est-ce que vous avez envie d'entendre une bonne prédication? Est-ce que vous faites partie de ces chrétiens qui tous les jours ou régulièrement demandent à Dieu qu'il bénisse votre pasteur, Seigneur, qu'il soit en forme, notre pasteur, pour le week-end? Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Qu'il soit en forme pour le week-end, la semaine prochaine, qu'on ait un beau sermon. C'est ça que vous demandez? C'est bien. Est-ce que vous avez vraiment envie? Est-ce que vous faites la différence entre une prédication, une bonne prédication, biblique, avec la sainte doctrine? Et est-ce que vous comprenez qu'au-delà de ce qui est bien, il y a la pensée de Dieu? Est-ce que vous pouvez dire, oui, je connais la pensée de Dieu? Vous savez, les lettres aux églises, ce que l'Esprit dit aux églises, est-ce que vraiment dans votre cœur, ou alors moi je vous fais une prédication, une bonne prédication, un pasteur qui prêche depuis 33 ans, il peut faire une bonne prédication, ça sans problème. Mais moi, ça ne m'intéresse pas les bonnes prédications. Ce qui m'intéresse, c'est que vous alliez tous au ciel. Et je ne suis pas sûr que dans nos églises, peut-être ici que oui, mais je peux vous dire que dans beaucoup d'églises, il y a des chrétiens qui ne sont pas prêts à rencontrer Dieu. C'est grave, c'est archi grave. Alors je voudrais partir d'un texte, s'il vous plaît, qui est utilisé pour l'évangélisation, mais je crois qu'on peut l'utiliser. Tous les textes que l'on utilise en évangélisation, on peut les utiliser en édification. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, est-ce que vous m'entendez bien? Non, mais ça, ce n'est pas ma faute, c'est le sonorisateur. Il vous faut le changer, le virer, faites quelque chose. Mais ça ne sera pas ma faute si vous ne m'entendez pas. Il s'appelle comment, le sonorisateur? C'est votre dernier culte. C'est votre dernier culte. Jean, chapitre 5. Alors, on peut concilier la joie et le sérieux, mais moi, je suis sûr, vous savez, mes frères et sœurs, vous savez, si je suis ici ce matin, c'est pas parce que je viens récupérer ma fille. Je pense parce que Dieu l'a voulu. Vraiment, je le pense. Et je pense qu'à des moments, Dieu permet qu'il y ait des pasteurs de passage dans les églises, comme Dieu permet que dans l'assemblée où je suis, il y ait des pasteurs de passage. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites par le pasteur en place, M. Vautier à l'occurrence, et que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez plus. Parce que vous pensez que c'est un homme qui vous parle, mais ce n'est pas un homme qui vous parle, c'est Dieu qui vous parle. Et vous avez écouté le premier don. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la prophétie, elle est sur mes notes. Et je suis persuadé, vous voyez, avec 11 personnes qui ont levé la main. Et on est combien? 200 peut-être? 200 et quelques? À peu près? Est-ce que vous vous rendez compte la pauvreté de notre mémoire? Vous êtes d'accord, c'est pas un jus. Vous vous sentez accablé? Je continue ou je fais une bonne prédication? Vous voulez une bonne prédication? Je sais faire. Mais la pensée de Dieu, je sais peut-être moins faire, mais je sais qu'il vaut mieux un mot qui vienne de Dieu que 50 qui viennent de l'intelligence. Alors lisons ce texte, s'il vous plaît, dans Jean au chapitre 5. J'espère que vous avez votre Bible. Je ne passe qu'une fois, Stéphane. Vous avez votre Bible? Alors, Jean chapitre 5, verset 1er. Verset 1er. Il y eut une fête des Juifs. Ah, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont sourds, c'est pas la faute du sonorisateur. Il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem.
Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portes. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri, ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen. Un petit peu en avant, dans l'évangile de Jean, c'est Jean-Baptiste qui le dit. Il dit une parole qui devrait nous faire réfléchir. Il dit « Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. » Cette parole, sans exagérer, compte tenu de nos expériences, de notre travail pastoral, nous pouvons dire, en toute humilité et tristesse surtout, que beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus. Vous allez dire « Mais si, on le connaît !» On peut le connaître selon la chair. Paul dit aux Corinthiens, vous le connaissez selon la chair, pour vous dire que ça peut vite dévier. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Alors moi, ma question, en tant que pasteur, même si je ne suis que de passage, c'est quand même ma responsabilité de vous apporter la pensée de Dieu, c'est de dire, mais comment connaissez-vous Jésus? Parce que je peux vous dire que quand on voit le comportement de certains, laissez-moi vous dire qu'ils ne connaissent pas bien le Seigneur, c'est sûr. Sans être critique, les fruits révèlent le comportement, le vocabulaire par exemple. Un chrétien qui est vulgaire, un chrétien qui est grossier, comment connaît-il le Seigneur? Soyons sérieux. Et peut-être y a-t-il parmi nous un chrétien qui s'autorise à être vulgaire? Eh bien, vous ne le connaissez pas. Paul dit aux Corinthiens, je le dis à votre honte, quelques-uns parmi vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Si, je prends l'exemple de la vulgarité, n'importe quel autre exemple aurait pu convenir, mais ça vous révèle que vous ne connaissez pas Dieu. Vous pouvez trouver l'excuse que je voudrais. L'autre jour, il y a un jeune qui est venu à la maison, parce que je forme des pasteurs. Il y a un jeune qui est venu et il me dit, voilà, monsieur Gau, j'aimerais être formé par vous, tatati, tatati, tatata. Bon, puis moi, je fais mon petit, comment on appelle ça, casting. Et je lui pose une 20aine de questions. Et je viens, par exemple, sur le domaine de la vulgarité, du vocabulaire. Et je lui dis, au niveau du vocabulaire, est-ce que vous utilisez des mots vulgaires? Alors, le gros blanc, il était gêné, il me dit, ouais, mais vous savez, de temps en temps, ça m'arrive d'en lâcher un. Ah bon? Ah, mais vous comprenez, moi, je suis corse. Ils sont où, les corses? Moi, je suis corse. C'était vous? C'était pas vous, non. Je suis corse, mais j'ai dit, mais c'est pas un problème de caractère. C'est un problème de désobéissance. Et sa femme, tu vois, je te l'avais dit. Il ne te fallait pas dire ça. Je te l'avais dit. Vous voyez, comment on est capable de justifier son péché. Ça prouve qu'on ne connaît pas le Seigneur. Paul, l'exemple, après Jésus, bien sûr. Paul disait, moi, je veux le connaître. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire, dans son cœur, ne répondez pas à haute voix, c'est pas la peine. C'est entre vous et Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire, moi, j'ai peut-être 40 ans de conversion, je veux le connaître davantage. Vous êtes heureux si vous en êtes là. Donc nous avons là un exemple extraordinaire. Tous les textes dans la Bible servent d'édification, d'encouragement, d'avertissement, etc., d'évangélisation. Et là nous avons un homme qui est malade. Il est malade. Mais il n'est pas malade. Il est malade depuis longtemps. Alors, est-ce qu'il n'y a que les pécheurs qui peuvent être malades depuis longtemps? Est-ce qu'il n'y a pas au milieu de nous, dans des églises, des chrétiens qui sont malades depuis longtemps? Je ne parle pas malade physiquement, ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, vous savez, j'ai fait un AVC bitalamique avec un infarctus. Et je peux vous dire que si je suis là ce matin, c'est peut-être grâce à l'AVC. Paul dit aux Galates, c'est à cause d'une infirmité que je suis venu vers vous. Oui ou non? Vous vous rendez compte? Et nous, on est là, on est tout le temps à fond dans la guérison. Moi, je crois à la guérison. Et justement, tout ce que l'on pourrait voir ce matin contribue et converge vers une guérison psychique, intellectuelle et tout ce que vous voudrez. Mais mes frères et sœurs, il n'y a pas que la guérison. Dieu peut permettre de grosses épreuves pour nous amener à découvrir ces choses. On a chanté « Tu donnes et tu reprends ». Eh oui, et si demain matin, Dieu vous reprend quelqu'un de la famille? Vous allez, est-ce que demain matin à 10h, vous chanterez « Tu donnes et tu reprends ». Eh oui, mais c'est ça. Oui ou non? Est-ce que Dieu, demain, peut reprendre votre conjoint? Alors je ne vous dis pas qu'il faut être, bien sûr, on a droit à la douleur et à la souffrance, mais c'est pour vous dire que souvent, on chante des choses, on ne sait même pas ce qu'on chante. Alors, cette maison, il est où? Vous avez vu où se trouve ces malades, cette foule de malades? À Bethesda. Vous savez ce que ça veut dire, Bethesda? Vous avez un bon pasteur. Les pasteurs sont interdits de parler. Et les Corses. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. C'est l'image de l'Église. Toutes les églises pourraient avoir sur leur fronton, toutes, dans toutes les dénominations, Bethesda. Parce que dans la maison de Dieu, on s'attend à ce qu'il y ait de la miséricorde. Beaucoup de miséricorde. Beaucoup de grâce. Oui, vous êtes d'accord? Toutes les églises du monde pourraient s'intituler Bethesda. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Dans la maison de Dieu, il peut y avoir une foule de choses qui ne vont pas. Là, c'est une histoire qui est extraordinaire parce que Jésus va vers un homme. À des moments, il a été dans des villages et tous les malades, tous, étaient guéris. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tous étaient guéris. Plusieurs textes dans la Bible nous indiquent, et c'est pour ça, et là, écoutez bien, indiquent que parfois, dans un groupe, dans une foule, le Seigneur ne bénira qu'une personne. Tiens donc, qu'est-ce que c'est ce travail? Vous avez vu quand Paul va à Philippe? Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Philippe? Paul va à une rivière. Il avait appris qu'à bord de cette rivière, il y avait plein de femmes qui priaient. Vous connaissez ce texte? C'est dans les Actes chapitre 16. Paul apprend qu'il y a des femmes qui sont en train de prier au bord de la rivière. Il y va. Et bien sûr, elles reçoivent Paul, et Paul prêche. Et il est dit que Dieu ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et qu'une femme, un groupe de femmes, toutes priaient, et pourtant, il n'y en a qu'une qui a vraiment été bénie. Pourquoi Dieu n'a-t-il ouvert le cœur que de cette femme? Eh bien, parce qu'il n'y a que cette femme qui était vraie, qui écoutait, qui était là et qui avait vraiment envie d'être dans la présence de Dieu. Mais je vous pose la question, et c'est sérieux. Vous savez, moi j'ai tellement vu de gens légers avec Dieu, des pasteurs légers, que ça m'a fait de la peine. Mais qui vraiment veut ouvrir son cœur? Qui veut être attentif à ce que Dieu dit? Vous vous rendez compte? Moi je ne veux pas vous faire de reproches, je ne suis pas là pour faire des reproches, et ça ne serait pas intelligent de ma part. S'il y a quelqu'un qui doit vous convaincre, c'est le Saint-Esprit. Mais quand je vois que dans une grande église comme celle-ci, il n'y en a que 11 qui ont levé la main et ne se sont pas rappelés du don spirituel, moi je vous avoue que ça me fait quand même de la peine. Dieu parle. Vous entendez? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nul n'y prend garde. Et en plus, les gens, ils ont le toupet. Seigneur, parle-moi, parle-moi. Parle-moi! Ils n'ont pas fini de dire parle-moi qu'ils sont déjà devant la télé en train de regarder des bêtises. Et ils demandent que Dieu leur parle. La prière, ce n'est pas un monologue. La prière, c'est un moment où après, on a dit tout ce qu'on avait à lui dire parce qu'il y a quand même des choses à dire à Dieu. On s'attend à lui et on l'écoute. Et quand je disais tout à l'heure, et je le dis avec sérieux, vous savez tout ce que je le dis sérieusement. Quand je vois qu'il y a des chrétiens qui prient, Seigneur, que notre pasteur il soit en forme. Vous savez, Monsieur Vautier nous a parlé du pasteur Jean Bosco, qui a des problèmes de cœur. Vous savez, ce n'est pas le premier pasteur qui est épuisé. Vous savez combien il y a de pasteurs qui arrêtent aux États-Unis chaque mois? Vous taperez sur Internet, parce que ça, tout le monde y va. 1 500 à 2 000 pasteurs arrêtent tous les mois aux États-Unis.
d'épuisement, de fatigue. Mais c'est normal. Les chrétiens sont tout le temps en train de solliciter les pasteurs. « Monsieur le pasteur, venez me voir, je crois que j'ai 38,2. » Ça vous fait rire, moi ça ne me fait pas trop rire. Je sais que la façon dont je vous le dis, c'est pour vous détendre, parce qu'avec tout ce que j'ai à vous dire, vous allez tous rire à la fin. Mais franchement, l'autre jour, il y a une chrétienne qui m'appelle, « Monsieur Gau, venez me voir, s'il vous plaît, je ne vais pas bien et tout. » Je dis non. « Venez me voir, s'il vous plaît, venez me voir, monsieur Gau. » Non, je dis, « Je vous verrai ce soir à la réunion. » Monsieur Gau, quand même. C'est quoi quand même? Je suis en train de prier, de chercher la face de Dieu pour les âmes qui viendront ce soir à l'église. Et vous ne pouvez pas venir. « Ah non, cet après-midi, je ne peux pas. J'ai un repas avec l'association des personnes âgées. » Eh bien, je dis, « Vous n'y allez pas au repas. » Et le soir, on a eu une discussion. Et j'ai dit à cette brave sœur, « Il y a combien que vous êtes convertie ?» Elle me dit, « Il y a 49 ans. » J'ai dit, vous avez demandé à Dieu qui vous parle pour vous montrer le péché dans votre vie. Monsieur Gros, quand même, comment vous me parlez? Je dis, oui, est-ce que vous avez demandé à Dieu? Il y a un péché dans votre vie. Dites-moi-le. Non, Dieu vous le montrera. Il faut que Dieu vous le montre. Et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, monsieur Gros, j'ai passé des heures en prière. Dieu m'a montré mon péché. J'ai un sale caractère. J'ai dit, ouais, mais c'est... Mais elle l'a reconnu. J'ai dit, mais c'est bien. Vous vous rendez compte, si un professeur de mathématiques nous appelait, un professeur de maths, monsieur Gau, vous pouvez me voir, je voudrais savoir combien font 2 plus 2. Vous diriez, non mais le prof, il a un problème. Il y a des chrétiens, ils ont 30 ans de conversion. Bien sûr, c'est une parabole. Mais mes frères et sœurs, les pasteurs, et peut-être que Dieu m'a demandé de venir pour ça, votre pasteur, votre jeune pasteur, écoutez-moi, libérez-les pour qu'ils puissent chercher la pensée de Dieu. Faites tout ce qu'il faut faire dans l'église. Faites-le tout, mais laissez votre pasteur chercher Dieu. Ne le fatiguez pas avec des trucs stupides et bêtes, avec des visites inutiles. Mais c'est sérieux, mes frères et sœurs. Vous voulez que Dieu bénisse Gap? On prie pour le salut des âmes et on n'est pas capable de laisser un pasteur chercher la face de Dieu? Oui, il y a des gens qui sont malades depuis longtemps et pour cela, ils ont besoin de la présence du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Elle est magnifique, cette histoire. Il y a toute une foule de malades. Jésus a guéri ce malade. Il a été vers lui, c'était la volonté de Dieu. Jésus n'a pas pouffé, il n'a pas été au pif, comme on dit. Il a été vers cet homme parce que cet homme, certainement, peut-être que ça faisait des semaines, des mois, qui priait. Est-ce que c'est possible que cet homme, depuis des mois, priait? Seigneur, mais j'en ai marre d'être malade. Ça fait 38 ans que je suis malade. J'ai besoin d'une victoire. On chante des cantiques de victoire, mais franchement, est-ce qu'on va à la croix la chercher la victoire? Quand je vois moi des chrétiens que ça fait 30 ans qu'ils ont un sale caractère, 49 ans qu'ils ont un sale caractère, vous ne croyez pas qu'il y a besoin, il y a un truc qui ne s'est pas passé. Parce que moi je vous dis que quand le Seigneur se retrouve à côté de vous, comme avec cet homme, le Seigneur était... Alors ce qui est extraordinairement encourageant, c'est que cet homme, il ne connaît pas Jésus. Il ne le connaît pas, il ne sait même pas que c'est lui. Mais moi je peux vous dire ce matin que le Seigneur, il est au milieu de nous. Vous ne le connaissez pas, certains, vous pensez le connaître, mais je peux vous dire que votre caractère prouve que vous ne le connaissez pas. Alors vous devriez dire, mais Seigneur, je veux que tu sois avec moi. Je veux ta présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans son cœur, dit, moi, je veux la présence de Dieu? Cet homme, il a eu le privilège extraordinaire sur la terre d'avoir le Seigneur Jésus à côté de lui. Vous vous rendez compte quel privilège? C'était pas une grâce? Là, dans ce portique à Bethesda, qui aurait dû être une maison remplie de miséricorde, c'était une maison remplie de souffrance. Et là, nous voyons le Seigneur Jésus qui est arrivé au pied de cet homme. C'est pas merveilleux? Et il lui pose la question que si c'était pas de Jésus qui la pose, nous n'oserions pas la poser parce qu'elle pourrait paraître être cynique. Dire à quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, veux-tu être guéri? Ça serait pas Jésus, on dirait, non, mais c'est de l'humour noir. C'est une question que Jésus a posée à cet homme, mais il te la pose ce matin. Est-ce que tu écoutes? Parce qu'il faut être honnête avec les paroles de Dieu. Il faut être archi honnête. Est-ce que tu veux être guéri? Bien sûr, tout le monde dit, mais oui, attendez, avant de répondre... Est-ce que tu veux être guéri vraiment? Parce que être guéri, ça indique, s'il y a une question, il y a une réponse. C'est la politesse.
Quand vous posez une question à quelqu'un, vous attendez une réponse. Si Jésus pose une question, quand même, vous devez lui répondre à lui. Ne répondez pas à moi, ni à M. Vautier, ce n'est pas grave. Mais répondez au Seigneur. Est-ce que tu veux être guéri? Parce que Jésus va lui demander quelque chose qui paraît même bizarre. Lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme aurait pu dire, écoute, Seigneur, tu me demandes quelque chose, tu sais très bien que je ne peux pas. Mais si Dieu lui demande quelque chose, c'est qu'il peut le faire. C'est comme quand Dieu demande à quelqu'un, repens-toi, on peut se repentir. Moi, quand quelqu'un me dit, je ne peux pas me repentir, je dis, mais oui, vous ne pouvez pas, c'est sûr. Vous ne voulez pas. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas pardonner, qui ne pardonne pas, oh, c'est trop dur. Ce n'est pas vrai, c'est que vous ne voulez pas pardonner. Il faut être honnête, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens qui vont aller en enfer, parce qu'on n'aura pas été honnête avec eux. Et si vous ne pardonnez pas, c'est votre problème, mais c'est que vous ne voulez pas. Prends ton lit, lève-toi. Mais c'est peut-être les deux mots que vous avez besoin d'entendre. Lève-toi. Lève-toi dans l'église et fais ce que Dieu te demande. Est-ce que dans l'assemblée de Gap, vous faites ce que Dieu vous demande? Vous êtes de Gap ou de Marseille? J'ai l'impression qu'il y a des espions, plein de gens de Marseille. Les gens de Marseille, je veux vous voir à la fin. Que vous soyez de Marseille et même de Corse, parce qu'on aime les Corses quand même, de Corse, de Marseille, de Lille ou de la Guadeloupe, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que dans les églises où Dieu vous a placé, vous fassiez ce que Dieu vous demande. Mais comme vous n'entendez pas Dieu vous parler, comment voulez-vous faire quelque chose puisque vous ne savez pas ce que Dieu vous demande? Et ça, ce n'est pas le rôle du pasteur, c'est à vous de le recevoir. Veux-tu être guéri? Vraiment? Vous savez, Jésus l'a dit quelque chose de merveilleux, on devrait le lire plus souvent. Mes brebis, elles connaissent ma voix. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Elles ne la connaissent pas, elles n'ont pas envie d'entendre autre chose. Les vraies brebis, elles ont envie d'entendre la voix du Seigneur. Mes brebis, elles connaissent ma voix. Alors, le sujet de ma prédication, parce que je pourrais bifurquer dans plusieurs directions, c'est qu'il doit y avoir une première fois. Cet homme, il représente les gens qui ont un contact avec Jésus la première fois. Mais vous vous rendez compte, Jésus est venu, il ne savait même pas le prénom de la personne qu'il avait guéri. Et ça peut arriver, ça. Ce matin, peut-être que quelqu'un peut dire, mais Seigneur, touche-moi, Seigneur, Seigneur. Et Dieu va vous toucher. Vous ne le connaissez pas, vous savez peut-être tout juste qu'il est mort sur la croix pour vous à votre place, que c'est le Dieu de l'univers qui est venu en chair au calvaire. Vous ne connaissez que ça, vous ne connaissez rien, je peux vous le dire. Mais ça suffit. Ça peut suffire pour que vous ayez la bénédiction. Et c'est ça la grâce de Dieu. Dieu, malgré votre ignorance, votre légèreté, peut-être votre immaturité, j'en sais rien, etc. Ça va loin. Ça peut aller loin. Mais Dieu peut vous bénir. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu regarde au cœur, comme il voyait à Philippe, dans cette petite rivière, à côté, cette femme qui priait. Il a envoyé le grand apôtre Paul. Vous savez, Dieu vous enverra quelqu'un. De toute façon, vous avez la parole. Nous, c'est simplifié, on a tous la même parole, on a tous la même Bible, on a tous le même Seigneur. Donc, on n'a pas d'excuses. Alors, il y a un moment, il doit y avoir une première fois, donc le Seigneur va vers cet homme. Il saura venir vers vous, le Seigneur. Vous le croyez? Le problème, c'est que des fois, il ne peut même pas venir. Il ne peut même pas rentrer. Vous connaissez ce qui se passe dans l'église de Laodicée, ce que Jésus est obligé de dire à ses chrétiens, qui sont à fond dans l'activisme. À fond dans les activités, Dieu parle, je ne sais pas s'ils ont compris. Puis Jésus dit un truc qui fait peur. Je me tiens à la porte. Seigneur, on a réussi à te mettre à la porte dans les églises du Seigneur Jésus, oui, même dans nos assemblées. Eh bien, on a réussi à mettre Jésus à la porte. Vous trouvez que j'exagère? Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la honte qu'on devrait avoir. On a réussi à mettre Jésus à la porte. Et il frappe, si quelqu'un entend. Mais les gens, l'autre jour, j'ai été voir une sœur. Je vais voir une chrétienne. Je rentre, c'était 10h du matin. Bonjour, madame. Ça. On parle, monsieur Go, j'entends derrière. La télé à fond. Comment ça sonne? Ça a duré, j'ai dit, on va voir. 5 minutes. Puis au bout de 5 minutes, j'ai dit, ma sœur, ça ne vous gênerait pas si on éteignait la télé? Oh, j'ai pas fait gaffe, excusez-moi. J'ai dit, mais c'est grave. On ne s'entend pas. Et c'est révélateur de la situation des gens. On n'est pas capable d'entendre la voix de Dieu. On ne peut pas l'entendre. Il y a trop de trucs. Il y a trop de voix. Mes brebis, elles connaissent ma voix. Et il y a une disposition de cœur. Et ça, ce n'est pas votre pasteur qui peut le faire. C'est vous qui choisissez. Il y a un processus. Ce processus, c'est évident. Il commence par une première fois. Ou il recommence une première fois. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'accord. Alors, bien sûr que les gens légers, ben, qui parlent. Vous voyez, les gens qui sont légers. Mais il n'y a qu'à parler. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus sérieux que ça. Vous voulez vraiment que Dieu vous parle? Vous voulez vraiment que Dieu vous parle? Mais Dieu ici, s'il est à la porte ou au bout de la rue, ou de l'autre côté de la ville, tellement là. Parce que s'il est à la porte, c'est déjà grave. Mettre le Seigneur à la porte, c'est une honte. Mais pour certains, il n'est pas à la porte. Il est de l'autre côté de la France. Tellement on s'est éloigné de lui. Vous allez me dire que j'exagère. Mais il va falloir peut-être changer les choses. Et demander aussi. Il y a des gens, ils ne sont pas au bout de la rue. Qu'ils ont déjà la radio à fond. Vous vous rappelez ce qu'il est dit? Que le diable, il vient. Comme les oiseaux du ciel. Et il enlève la semence qui a été semée. Les gens, ils sont pas. Ils n'ont pas sorti de l'église. Qui sont déjà avec le casque à fond et ils écoutent et il faut savoir qui c'est qui a gagné dans telle discipline aux Jeux Olympiques. Écoutez, mes frères et sœurs, écoutez, si nous voulons que Dieu nous parle, comme la prophétie l'a dit, demandez au Seigneur qu'il vous montre ce que la prophétie disait. Moi, je ne vous le dis pas. Demandez-lui au Seigneur. Il faut une première fois. C'est peut-être le thème de ma prédication. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure je peux prêcher. Quand je suis en forme, je peux prêcher 4-5 heures. Voilà. Quand je ne suis pas en forme, je me fais violente et je peux prêcher 8 heures parce que je veux dépasser mes limites. Mais trêve de plaisanterie. Il faut une première fois d'être d'accord. Ou une première fois. On parle de cet homme, il y a une première fois. Ça serait intéressant que vous le fassiez vous-même. Regardez dans la vie de Moïse. Moïse qui apprend à 40 ans... Certaines choses, il veut faire les choses pour Dieu, il pensait que ses frères comprendraient, vous savez, quand il a tué l'Égyptien, il pensait que, vous savez, ce qu'on pense, c'est une chose, ce que Dieu veut faire, c'est autre chose. Bon, quelques jours vont passer, enfin, 40 ans vont passer, et il va y avoir vraiment une première fois. Il est en train de regarder les brebis, ça fait 40 ans qu'il garde les brebis. Vous savez, le temps de Dieu, nous on est là, on voudrait que ça se passe vite. Moi j'ai honte, oui. Moi ce matin je me tenais devant Dieu. Il y a un chapitre de la Bible que j'ai lu 1000 fois. Je n'exagère pas. Ce matin j'ai compris quelque chose en lisant ce chapitre. Mais j'avais envie de pleurer, de honte. Parce que pour moi c'est important. C'est quelque chose que Dieu m'a montré il y a 36 ans. Et j'ai eu honte. Mais j'ai eu honte. Et pourtant je sais que Dieu agit de cette manière. Il faut du temps. Il faut du temps. Acceptez-le, ne vous découragez pas à cause du temps qui passe. Moïse va voir ce buisson qui ne se consume pas en feu. Il y a une première fois. Vous trouvez que Dieu, après, s'est révélé à Moïse? Un peu? Comment Dieu s'est révélé à Moïse? Mais il y a eu cette première fois. Le grand apôtre Paul, cet homme qui était crucifié au monde, crucifié pour la chair, cet homme qui vivait vraiment cette communion et qui ne pouvait pas faire autrement que de recevoir. Il y a eu une première fois, on peut le lire. C'est dans Acte 22. C'est important, mes frères. Je voudrais vous encourager parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui ne vont pas bien partout dans l'assemblée où Dieu m'a placé. Il y a des chrétiens qui ne vont pas bien. Vous avez cette femme, 49 ans, qui demande une visite parce qu'elle a 38,5. Acte 22. Regardez bien, mes frères et sœurs. Je vous encourage à prendre votre Bible quand vous venez à l'église et à noter les textes. À noter les textes qui sont dits. À noter peut-être une prophétie. Vous croyez que par une... Bon, il y a des gens qui donnent des prophéties, c'est pas spirituel. Mais il y a des gens qui donnent des dons, c'est spirituel. Il y a des gens, c'est charnel. Des fois, c'est juste une petite instruction. On le sait. C'est pas évident de gérer ça. Mais il y a des... Moi, la première prophétie, les autres tenaient à peu près debout. Mais la première, vous avez entendu? Vous croyez pas que ça vaut la peine de prendre un papier, peut-être? Il dit, Seigneur, tu as voulu nous parler ce matin. Eh oui. Moi, je suis malheureux quand je vois combien des gens disent à Dieu, parle-moi, parle-moi, et je peux vous dire qu'ils prouvent par A plus B que ce n'est pas vrai. Acte 22, la première fois dans la vie de Paul. Acte 22, verset 6. Comme j'étais en chemin... Alors, à ce moment du verset, le terroriste Saul de Tarse est un homme rempli de haine. Le Saint-Esprit le décrit comme un homme respirant le meurtre et la menace. Vous vous rendez compte ? Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, c'était pour aller persécuter les chrétiens. Je dis ça pour les chrétiens, les nouveaux qui ne savaient pas. Tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me répondit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Voilà le départ merveilleux où Dieu a parlé au grand homme. Il ne le connaissait pas. Il y avait un début. Et je vous assure, mes frères et sœurs, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut qu'il y ait de nouveau un début. Je ne connaissais pas. Quand on voit ça, ça fait presque sourire. Paul Saul de Tarse qui dit « Qui es-tu ?» Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est beau, presque. C'est tellement beau. C'est un grand homme de Dieu qui va écrire les deux tiers du Nouveau Testament. Qui es-tu? Qui es-tu? Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous ayons ce souci de recommencer à entendre Dieu parler. Parce qu'il parle, mais il ne parlera pas aux gens qui n'ont pas envie d'entendre. Il ne parlera pas. Moi, si vous me dites, monsieur Gault, est-ce que vous voulez prendre des cours de couture? Je dis, pour faire plaisir, ouais, peut-être. Mais ce n'est pas vrai. Vous comprenez bien que la couture, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Et même si j'allais un cours de couture pour faire plaisir, la personne qui m'aurait invité, son espèce de crochet droit, machin, je n'écouterais pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais ça vous fait rire. Mais combien dans l'Église ne sont pas intéressés? Peut-être la bénédiction, peut-être la superstition, peut-être en pensant si je vais à l'Église, Dieu doit être de mon côté. Si je prends la Sainte Seine, il y a de fortes chances que je sois en communion avec Dieu. Écoutez, ce n'est pas ça du tout. Une première fois, Samuel, c'était un grand homme, Samuel. Samuel, le grand prophète Samuel. Est-ce qu'il n'y a pas eu une première fois? Et pourtant, il servait Dieu. Lisez-le avec moi. Dans 1 Samuel... Il y a eu une première fois, c'était un grand homme de Dieu, Samuel. Vous avez vu comment Dieu lui parlait? Mais il a été sérieux. C'est important, parce que être spirituel, c'est être sérieux avec Dieu. Il connaissait Dieu. Regardez 1 Samuel, chapitre 2, verset 26. Je le répète, prenez votre Bible. Vous allez peut-être trouver que c'est fatigant, mais je viens qu'une fois. Ne vous inquiétez pas. 1 Samuel, chapitre 2, verset 26. À moins que votre pasteur me invite. 1 Samuel, chapitre 2, verset 26, regardez bien, il était tout jeune. Ça représente notre départ avec Dieu, nos premières années avec Dieu. Le jeune Samuel continuait à grandir. Tiens, ça pourrait être l'objet d'une prédication. Est-ce que vous continuez à grandir ou est-ce que vous continuez à rétrécir? Vous grandissez ou vous rétrécissez? Ça vous fait rire? Monsieur Vautier, je vous pose la question. Est-ce que dans votre église, il y a des chrétiens qui rétrécissent? Ouais, elle a raison, la sœur. Il ne voudra pas répondre. Et ouais, il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Il était agréable à l'Éternel. Vous voyez, il grandissait, mais il avait besoin d'une première foi. Et au chapitre 3, vous le lirez. Il grandissait, il s'appliquait, parce que même si le Seigneur ne vous a pas parlé comme peut-être vous aimeriez qu'il vous parle, appliquez-vous à obéir. Même si Dieu tarde, parce qu'est-ce que Dieu peut nous éprouver? Eh oui, Dieu peut nous éprouver, combien de temps? Une semaine? 15 jours? Combien de temps Dieu a éprouvé Joseph? Allez, tiens, on va voir si vous connaissez votre Bible. Combien? Des années, oui, c'est sûr, des années. Combien de temps Dieu a éprouvé Joseph? Combien? 13. Qui c'est qui a dit 13? Voilà. Vous pourrez faire le ménage pendant un an dans l'église. 13 ans, il avait 17 ans. Est-ce que c'est écrit qu'il avait 17 ans et qu'il avait 30 ans quand il s'est présenté devant Pharaon? 13 ans. Éprouvé pendant 13 ans. Moïse a été éprouvé combien de temps? 40. Mais 40 ans, mais c'est bon, non, mais vous rigolez. Dieu, il sait, il nous connaît. Dieu a éprouvé Samuel. Et quand Dieu l'a éprouvé, à un moment donné, il était prêt. Il était prêt à entendre sa voix. Et Dieu s'est révélé. Il y a eu une première fois. Et moi, mes frères, je vous le dis, écoutez. Moi, quand j'ai téléphoné à M. Vautier, je lui ai dit, bien sûr, que je venais récupérer ma fille, ce qui était vrai. Mais vraiment, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je vienne. Et ce n'est pas pour voyager, moi, des kilomètres. Ma femme, elle me fait faire beaucoup de kilomètres. Ma femme, elle aime voyager. Non, je blague. Mais je savais que c'était la volonté de Dieu. Parce que votre pasteur, Dieu veut le bénir. Vous voulez que Dieu bénisse votre pasteur? Vous voulez? Alors laissez-le tranquille. Mais écoutez-moi, non mais je suis sérieux. Mes frères et sœurs, il y a des milliers de pasteurs aux États-Unis qui arrêtent chaque mois. Vous pouvez, tapez-le. Démission des pasteurs aux États-Unis, il n'y a rien de plus facile aujourd'hui que tous. Vous pouvez tous savoir, vous allez voir. 2000 pasteurs, 1000 anciens, payés à plein temps, parce qu'aux États-Unis c'est différent. Est-ce que vous vous rendez compte? Le drame. Parce que les pasteurs, il faut qu'on se tienne devant Dieu. Il faut chercher l'Éternel. Les chrétiens doivent le faire. Alors, combien plus forte raison, les hommes de Dieu. Il faut qu'il y ait cette première foi. Je veux que Dieu parle à mon cœur. Et il parlera. Laissez-moi vous dire que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même si vous n'avez pas été nombreux à le retenir, moi je peux vous dire que quand la prophétie a été donnée, je la retiendrai. Écoutez les prophéties. Et quand il y a un don spirituel, restez en silence pendant une minute. Ça tient debout ce que je dis. Restez en silence, ne priez pas de suite après. C'est pour ça qu'on oublie. Quand il y a un don spirituel, écoutez, si c'est Dieu qui a parlé, ça ne vaut pas la peine de rester une minute en silence. Plutôt que de suite, oh, merci Seigneur pour le salut de mon âme. Mais c'est bien. Mais quand même, Dieu vient de parler par un don. Si c'est vraiment Dieu, je le répète, si c'est vraiment Dieu qui parle, mes frères et sœurs, ça ne vaut pas la peine de faire silence. Il y en avait 11 qui se sont rappelés. Je reviens à mon monsieur de la piscine. Quel encouragement. Même si je suis malade depuis longtemps. Moi, ça m'encourage, ça. Parce que je sens que malgré l'exigence de Dieu, il y a cette grande miséricorde. Moi, ça me fait du bien. Parce que des fois, on se sent convaincu de péché. Mais en même temps, on se sent poussé par Dieu, aimé de Dieu. Mais il ne faut pas que l'amour prenne tout. Il faut qu'on soit captivé par les exigences. On parle beaucoup d'amour. Moi, je vais dans des églises, des fois, il n'y a que des chants sur l'amour, tout va bien. Non, non. Il y a l'amour de Dieu et il y a la sainteté de Dieu. Et moi, je dis à tous les meneurs de chants, prenez pas que des cantiques sur l'amour de Dieu, prenez des cantiques sur l'exigence. Dieu est un Dieu saint. J'ai un petit témoignage à vous donner cette semaine. Écoutez bien. Il n'y a pas que des femmes de 49 ans de conversion. Il y a un enfant romain, grosso, quel âge il a ? 10 ans, 11 ans ? 11 ans. Écoutez bien. Il y a un gamin mardi de 11 ans. Il vient me voir avec ses parents. Il me dit, Monsieur Gauche, j'ai une question à vous poser. Je suis en train de lire le livre de l'Exode. Mot pour mot, hein. Je suis en train de lire le livre de l'Exode, je suis arrivé au chapitre 4 et j'ai été étonné de voir que Dieu a attaqué Moïse pour le faire mourir alors qu'il partait en Égypte pour faire la volonté de Dieu. 11 ans. Alors ses parents, ils étaient tous saisis. Oui, Monsieur Gou, pourquoi Dieu a-t-il voulu faire mourir Moïse ? Alors moi j'étais heureux, moi j'ai dit Seigneur, merci Seigneur. Alors on a lu le texte, Exode chapitre 4, il y a des chrétiens qui ont 20 ans de conversion, ils ne le savent même pas, ils l'apprennent ce matin. Et si j'avais un peu d'audace, je demanderais aux chrétiens qui ont plus de 10 ans de conversion de lever la main pour savoir s'ils se connaissaient cette histoire. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, Moïse est en train d'obéir à Dieu, il a patienté 40 ans, au bout de 40 ans, il est prêt à faire ce que Dieu va lui demander, et alors qu'il part en Égypte, paf, en pleine nuit, Dieu voulut le faire mourir. Dieu l'attaqua pour le faire mourir. C'est un gosse de 11 ans qui vous pose une question pareille. Et j'ai dit oui, écoutez bien. Parce que cette sphère, elle est pour quelqu'un ici. Pourquoi Dieu fait-il ces choses? Parce que Moïse, si vous voulez, c'est comme une cible. Il entrait de plus en plus dans le plan de Dieu. Vous me suivez? De plus en plus, il entrait dans le centre de la volonté de Dieu pour que les choses soient faciles à comprendre. Plus vous obéissez à Dieu, plus vous entrez au centre de la volonté de Dieu, plus il faut obéir. Et comme il y avait un conflit dans le couple entre Moïse et Séphora, Séphora n'avait pas voulu circoncire son fils, vous connaissez l'histoire. Elle n'avait pas voulu, elle a compris de suite. De suite, elle a pris un couteau, elle a circoncis son fils, ouais, époux de sang. Vous lirez l'histoire. Ce qui nous prouve que Dieu ne passe pas sur la désobéissance. Dieu passe sur l'ignorance. Il y a des choses, on ne les sait pas. Mais sûr que si on ne lit pas, on ne les connaîtra pas. Mais Dieu passe pas sur la désobéissance. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, oui, mais Dieu, vous comprenez nos faiblesses, nos manquements. Oui. Et béni soit Dieu qui ne tient pas compte de nos faiblesses, de nos manquements, de certaines de nos erreurs et de notre ignorance. Mais Dieu ne passe pas sur la désobéissance. Et beaucoup de chrétiens sont en vrac parce qu'ils désobéissent à Dieu. Et nous devons être sérieux et dire, oui, mais j'ai l'habitude, hein, ça fait 33 ans que je suis pasteur. À la sortie, maintenant, vous ne le ferez pas parce que je vais vous le dire. Mais à la sortie, oui, mais Monsieur Gros, vous avez parlé de Samuel, bon, c'est quand même une drôle de pointure. Vous avez parlé de Moïse, Monsieur Gros, Moïse. Vous avez parlé de l'apôtre Paul, Monsieur Gros, l'apôtre Paul. Et, oui, d'accord. Mais est-ce que Dieu n'a pas un plan pour chacun de nous? Vous allez me dire, même l'apôtre Paul, c'était des millions d'âmes qu'il devait grainer dans le royaume. Et vous? Et si c'est que pour une âme, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Ça serait votre enfant en plus, qui n'est pas encore sauvé. Vous ne croyez pas que ça serait une bénédiction? Même s'il vous restait 10 ans à vivre, ou 2 ans à vivre, ou 15 jours, et alors? Si c'est pour le salut d'une âme, ça ne vaut pas la peine? Alors vous me direz, oui, mais Dieu s'est révélé à Samuel, oui, c'est vrai. Dieu s'est révélé à Moïse, oui. Dieu s'est révélé à ce pauvre type à la piscine. Dieu s'est révélé à Paul. Dieu s'est révélé à Pierre. Vous vous rappelez quand Jésus fait une espèce de sondage, qui dit-on que je suis? Alors les uns disent que tu es le prophète, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les uns disent que tu es Élie. Voilà, ce que les autres pensent, c'est bien. Et vous? Et Pierre? Seigneur, tu es le Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire, écoutez bien, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci. C'est mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'apôtre Pierre développait une communion avec Dieu, puisque c'est le Dieu du ciel et de la terre qui lui a révélé que le petit Jésus de Nazareth, ce que beaucoup de gens pensaient, était le Dieu du ciel et de la terre. Et mes frères et sœurs, on va terminer avec un verset. Les 4 heures sont vite passées, vous voyez. Regardez bien ce verset et amenez votre Bible. Notez les choses, notez la prophétie. Mes frères et sœurs, vous ne ferez pas de progrès si vous ne notez pas, si vous ne prenez pas du temps. Dans Éphésiens au chapitre 1er, l'apôtre Paul s'adresse à l'Église. Oui, c'est ça, Éphésiens, chapitre 1er. C'est une bonne église, Éphèse. Je ne connais pas l'église de Gap, moi. Elle est bien, l'église de Gap, monsieur Vautier? Elle est bien? Ben, c'est bien. Votre pasteur a dit que vous étiez de bons chrétiens. C'est bien, mais c'est vrai. Moi aussi, j'ai une bonne assemblée. On bénit Dieu pour nos églises. C'est une grâce. Vous savez, on est heureux d'être vos pasteurs. Hein, c'est pas vrai? Hein, on est heureux. Moi, je suis heureux d'être le pasteur de l'église de Saint-Agne. Je suis fier, j'aime les chrétiens et tout. Mais c'est pour ça, parce que je les aime, que je leur dis ces choses comme ça. Ils ne voudraient pas d'autres prédications, les chrétiens. Vous savez, un jour, je rentrais de Polynésie, j'étais missionnaire, et je priais. Je priais parce que justement, j'allais dans une église de passage. Et le Saint-Esprit m'a montré que je rendrais compte pour toutes mes prédications. Toutes. Oui, vous comprenez un peu? Vous comprenez mieux?
Il est dit que les pasteurs, ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Et c'est, moi j'ai de la joie, mais la joie, vous savez, elle n'est pas dans le rire. La joie, elle est dans l'onction. Ce n'est pas le rire qui donne la joie, c'est l'onction. C'est la croix qui donne l'onction, la joie. Parce que tout est au calvaire. Regardez avec moi. Éphésiens, chapitre 1er, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Donc, vous voyez, c'est une bonne église. Vous êtes d'accord? Bon, il y a des trucs qu'il faut régler, mais c'est normal. Vous voyez, il a entendu parler de leur foi, de leur amour. C'est bien. Mais ça ne suffit pas. Regardez, qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il est en prison. Hein? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et vous lirez le reste de sa prière, parce qu'elle concerne bien sûr les chrétiens d'Éphèse, mais elle nous concerne puisqu'elle est dans la Bible. Qu'est-ce que Paul fait? Il ne dit pas « Priez pour moi, j'en ai marre, je suis en prison, priez ». Non, il prie pour que les chrétiens, eux aussi, aient un esprit de révélation. Vous avez compris mon message? Est-ce que vous avez compris la prédication? Est-ce que vous pouvez recevoir un esprit de révélation? Est-ce que ça vous intéresse que Dieu se révèle? Mais quel est le temps que vous allez lui donner? Parce qu'il faut du temps. Ne vous amusez pas à dire « Seigneur, tu sais, moi j'ai que 5 minutes. » Oui, bien oui, mais c'est peut-être vrai. Pour Dieu, vous en avez peut-être pour Google, le grand Dieu Google, vous en avez peut-être 3 heures. Mais pour le Dieu de l'univers, vous avez 5 minutes. Google vous parlera, ça c'est sûr. Mais Dieu ne vous parlera pas. Et si vous dites, Seigneur, donne-moi un esprit de révélation, il le fera. Il le fera. Dans le temple, comme par hasard. Qui a rencontré l'aveugle, enfin, le malade de Bethesda? Qui a-t-il rencontré? Jésus. Mes frères et sœurs, quand on cherche dans la maison de Dieu, on rencontrera Dieu. Ceux qui me cherchent, me trouvent. Et ne vous imaginez pas vous présenter un jour devant Dieu, écoutez-moi bien, en lui disant, Seigneur, je t'ai cherché, mais tu ne m'as pas parlé. Je pense que ça ne va pas passer comme ça. Non, mais il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui font, j'ai cherché Dieu, je ne l'ai pas trouvé. Je dis, vous n'avez pas dû chercher longtemps. Vous voyez combien les gens sont insensés. Ceux qui me cherchent, ils me trouvent. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur de l'univers. Alors, moi, j'aimerais qu'on termine ce culte en priant. Vous voulez bien? Il y a quelqu'un qui veut se recueillir et prier avec moi? Dans son cœur, vous savez, Lydie, Dieu l'a vu. Dieu, il a vu Samuel. Dieu, il a vu Moïse qui gardait ses moutons, qui n'était même pas à lui. Dieu a vu ce pauvre homme depuis 38 ans. Peut-être que vous êtes là à Bethesda, parce que la maison du Seigneur est une maison de miséricorde. Peut-être que vous êtes là, mais Seigneur, ça fait 10 ans que je suis là. Peut-être que c'est le pasteur qui ne fait pas. Il faut prier pour que le pasteur y change. Écoutez-moi, vous avez la même vie, vous avez le même Seigneur. Priez pour votre pasteur. Même là, je vous pose une question. Restez tous recueillis. Qui a prié ce matin pour monsieur et madame Vautier? Qui a prié ce matin pour le stagiaire dont j'ai oublié le nom? Qui? Pour les meneurs de chant, voyez? Je peux vous dire que quand vous serez à l'ombre de la croix, vous ne les oublierez jamais. Alors on va prier pour que Dieu nous donne à ceux qui veulent. Il ne le fera pas. Il force personne. Mais je peux vous dire que si vous demandez à Dieu qu'il se révèle, il se révélera. Oui, je vous rappelle la prophétie, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt par Monsieur Vautier. Tantôt par un pasteur de passage, tantôt par le jeune pasteur en formation, tantôt par un frère, par sa parole, par une circonstance. Dieu parle. Mais est-ce que les oreilles de nos cœurs sont ouvertes? Alors prions. Et Dieu va entendre votre prière. Vous savez, moi je vais prier avec mes mots de tout mon cœur. Mais Dieu peut-être va entendre des cris encore plus forts dans le silence. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, Seigneur, je veux que tu te révèles. Je veux une première fois. Je le veux. Et s'il y a quelqu'un qui le veut vraiment, alors prions ensemble.
Notre Père, notre Dieu, tu es le Seigneur de gloire. Tu savais quand intervenir dans la vie de Moïse. Tu savais quelle nuit intervenir dans le cœur de ce jeune Samuel. Tu savais quand est-ce qu'il fallait arrêter Saul de Tarse. Tu savais quel jour, quelle heure il fallait aller à cette piscine pour rencontrer cet homme dont on ne connaît même pas le nom. Tu sais exactement quand nous rejoindre. Tu nous rejoins quand nous voulons que tu te révèles. Oui, tu parles. Alors Seigneur, que nous fassions partie de ces brebis qui connaîtront ta voix. Tu vois, Seigneur, s'il y a eu parmi ces chrétiens de Gap, ou ces chrétiens qui sont là de passage, de Corse, de Marseille, d'outre-mer, ou de Lille, Seigneur, tu vois ces gens que tu as conduits ce matin dans ta maison. Donne-leur cette révélation, que dans ta présence, ils puissent voir combien non seulement tu es couronné de gloire et d'honneur, mais tu es toujours couronné d'épines à nos yeux. Oui, à la croix, nous savons qu'il y a la victoire. La guérison, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alors Seigneur, s'il te plaît, ce matin, bénis cette assemblée de Gap. Tu vois combien c'est le seul instrument que possède cette région pour sauver des âmes. Bénis Monsieur Vautier, bénis le pasteur en formation. Donne à ces hommes la grâce de chercher ta face, afin que tu sois non seulement pour les chrétiens, mais pour les hommes de Dieu, ce Dieu qui se révèle et qui nous fait connaître ta pensée. Que ton nom soit béni. Merci d'exaucer cette prière, Seigneur Jésus. Amen.